Bon, d'abord, je voudrais vous dire le grand plaisir que c'est pour moi de pouvoir participer de cette discussion, de pouvoir partager la réflexion avec les collègues ici présents. Je n'ai pas été présente pendant les séminaires, donc j'étais invitée un peu dernièrement par René Friedman, qui m'a dit « Venez parce que nous avons des choses à échanger, parce qu'il y a une réflexion justement assez poussée. »
Donc concernant... il a eu peur et il n'est pas venu.
Donc, je ne sais pas. C'est le deuxième, hein, quand même. Pour venir, venir discuter et présenter certaines réflexions concernant donc la question de la technologie et son interaction avec l'humain. Donc une réflexion qui j'amène avec d'autres chercheurs, donc dans le pôle de recherche santé connectée, l'humain augmenté, puisqu'on s'intéresse à ce nouveau paradigme qui est maintenant dans la scène sociale, qui nous appelons l'humain augmenté. C'est-à-dire, c'est l'idée qu'à partir des techniques, la technologie, l'intégration dans le corps, ces techniques et ces technologies vont pouvoir produire une amélioration, ça c'est le terme en anglais, en français ça a été utilisé le terme d'augmentation, donc pour améliorer les capacités corporelles de l'être humain. Donc c'est dans ce cadre-là et dans ce type de réflexion que nous échangeons avec les collègues et que donc nous avons aussi certaines recherches en cours. Ce nouveau paradigme donc sur l'humain augmenté, évidemment il entraîne un mode de discours et des pratiques sur le corps qui ont une incidence directe sur la façon que le sujet a de traiter et d'être en rapport avec son intimité. Comme vous savez, et ça a été rappelé tout à l'heure, la médecine fait appel aujourd'hui à la technique, à la informatique, à la bioinformatique, au big data. Il y a plusieurs objets de synthèse, par exemple les prothèses, pour réparer, remplacer, voire augmenter certaines parties du corps à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur du corps, certains organes défaillants. Par exemple, ça a été rappelé, mais j'insiste parce que c'est quand même très important pour pouvoir redémarrer la réflexion. Actuellement, nous pouvons changer un bras, une jambe. Par exemple, le cas le plus vu, c'est l'athlète Oscar Pistorius, qui je pense que tout le monde connaît, mais aussi d'autres. Nous pouvons aussi bientôt changer un organe aussi vital comme le cœur. Des techniques prothétiques peuvent aussi être utilisées pour restituer les sens sensoriels, donc l'ouïe et la vision. Elles peuvent aussi être utilisées au plus profond du cerveau dans les symptômes de Parkinson, et nous ne sommes pas au bout de nos surprises puisque le séquençage du génome a été rappelé, ou encore la robotisation allant jusqu'aux nanorobots sont aussi possibles actuellement. Mais au-delà de cette hybridation technique du corps dans un but de réparation, vient s'ajouter un glissement vers une vision de l'humain, celle d'un humain augmenté dans ses capacités, et c'est là-dessus que ce courant appelé transhumaniste vient prendre ses sources pour pouvoir proposer donc une nouvelle façon de concevoir l'être humain. Évidemment, nous ne sommes pas là pour trouver qu'il y a de négatif et ne pas méconnaître le gain des techniques permettant d'avoir accès à des traitements il y a très peu d'années qui étaient encore inimaginables, mais nous sommes forcés de constater que ces mêmes techniques nous engagent dans une dépendance technologisée. Je ne vais pas vous apprendre qui... certaines personnes actuellement sans son portable ou sans un de ces outils peut se trouver complètement perdu et c'est la panique, c'est-à-dire tout est enregistré là-dedans, son désir, l'autre, tout est là-dedans et donc le perdre, c'est une catastrophe. Donc, ça veut dire que cet état hybride nous entraîne dans un type de corps à corps avec la technique. Il provoque donc des expériences corporelles nouvelles qui ne connaissons pas tous les effets. C'est pour cela donc que ce groupe de recherche auquel je fais partie s'est créé, puisque nous soutenons l'idée que nous vivons actuellement une instrumentalisation de l'humain sans précédent entre le corps et sa prothèse, entre la greffe d'un objet mécanique à l'intérieur de l'organisme et le monde subjectif du sujet, s'y produisent bien souvent une oscillation des frontières, un vacillement que les personnes appareillées peuvent exprimer par une certaine forme de malaise ou parfois par un type d'acceptation relative. Qu'est-ce que donc la psychanalyse et une psychanalyste peut apporter à ce type de réflexion? Donc j'ai, pour le peu de temps que j'ai, puisque l'idée c'est de pouvoir être vraiment dans une discussion, je vous amène donc quelques remarques. Il est vrai qu'actuellement on assiste à une inflation du discours assez fascinant concernant le pouvoir d'un corps réparé, le pouvoir d'un corps augmenté par les nouvelles technologies. Or, la psychanalyse n'amène pas des bonnes nouvelles, puisque précisément elle s'appuie sur une réflexion concernant ce que le sujet ne peut pas, même avec un corps préparé et un corps augmenté, sauf s'il devient quelque chose d'autre. Autrement dit, les transformations et les augmentations proposées par la technique sont en effet un lien avec un sentiment d'impuissance originelle du nourrisson et son expérience du manque localisée au long de son existence dans certaines parties de son corps. C'est à partir de cette détresse originelle que le sujet fonde sa position subjective, même si elle est corrigée de manière illusoire par la mise en place de ce que nous appelons le narcissisme. En fait, ces nouvelles technologies gravitent autour de cette ère narcissique propre à tout un chacun. Donc, position anthropologique fondamentale qui est la nôtre, c'est-à-dire d'arriver au monde inachevé, le nouveau-né, une fois arrivé au monde, est accueilli par un autre que nous appelons l'autre sécourable ou l'autre maternel. À partir de là, il organise son image, il construit ses illusions, mais également il construit ses fantasmes des toute-puissance. Au départ, des fantasmes comme quoi il est fusionné avec cet autre, dans un bonheur complet. Fantasmes des toute-puissance qui sont, à mon avis, sollicités pour nous faire croire aux promesses techniques, puisqu'ils viennent, si je peux me permettre, se connecter à cette ère narcissique de sujet qui constitue le sujet lui-même. Comme si ces promesses pouvaient nous faire croire au fait qu'on pouvait réparer cet état originel qui pourtant nous fonde. Au fond, la démarche de vouloir augmenter son corps est inhérente au sujet. Et nous pouvons dire que la première prothèse est, pour l'humain, le corps maternel. Ce premier rapport avec le corps maternel se déplace sous le désir d'augmentation du corps humain vers des lieux corporels qui vont s'y constituer petit à petit comme des lieux du manque. Et pour cela, par exemple, les chirurgies esthétiques sont un exemple assez clair, justement, des personnes qui vont tout à coup localiser leur malaise sur le nez ou sur les seins ou sur les fesses. Voilà. Donc c'est à partir de là, selon moi, qui, donc à partir de cette situation de détresse originelle, elle-même qui produit à partir de la rencontre avec l'autre cette ère narcissique, c'est à partir de là, selon moi, qui vient s'organiser actuellement une politique technologique. qui, en s'appuyant sur l'effet du manque sur le sujet, promet à chacun de traiter ce défaut fondamental, donc cette situation de détresse, qui est en définitive le prologue de l'angoisse séparation, d'après cet autre qui va être investi, et ensuite l'angoisse castration, ces deux mouvements qui constituent en fait ce que nous appelons la psyché. Les propositions transhumanistes, par exemple, se fondent sous le désir de nous guérir ou de nous débarrasser d'un corps castré, soumis à des contraintes telles la mort ou la dépendance à l'autre. De là, évidemment, on ne peut pas ne pas s'intéresser à tous les procédés animistes qui accompagnent l'évolution de l'être humain, c'est-à-dire de déposer sur un objet inanimé toute une possibilité de vie. Mais le ver est dans le fruit, c'est justement la rencontre et le besoin de l'autre, la rencontre de l'altérité, la rencontre avec la castration, c'est-à-dire le fait de pouvoir reconnaître que nous ne pouvons pas tout, c'est ça qui participe de la construction de la psyché humaine. Voilà pourquoi, pour moi, cela est un des enjeux importants de la technique, et c'est la raison pour laquelle je soutiens l'idée que les dispositifs techniques actuels, paradoxalement, retiennent le sujet dans une position de dépendance régressive et infantile. Une autre remarque, qui me paraît très intéressante, étonnante même, c'est que Freud, excusez-moi de me référer à le fondateur, en 1930, dans un texte appelé « Malaise dans la culture », parlait dans ce texte de la quête de bonheur de l'homme, donc quête de bonheur qui s'inscrit justement dans un état de souffrance inhérente, tout simplement par le fait d'être vivant. Le fait d'être vivant, de vivre, nous impose une contrainte, puisque nous sommes traversés par des forces qui peuvent nous pousser vers le bonheur comme vers le pire. Donc Freud, dans ce texte, fait une espèce d'inventaire de tous les procédés que l'être humain s'utilise pour pouvoir pallier, pour essayer de quand même trouver des moyens de pouvoir supporter sa condition humaine. Et il ajoute, d'une façon prophétique, que petit à petit, l'homme, à travers les connaissances scientifiques qui peut-être remplaceront son investissement dans la religion, peut-être il n'aura plus besoin de légitimer ses actes par une instance divine, et peut-être va arriver un jour qui, appuyé sur la technique, il se suffira à lui-même, devenant ainsi un dieu prothétique. Si je vous rappelle cela, c'est pour souligner évidemment le caractère actuel des interrogations freudiennes, mais aussi pour vous souligner qu'elles rejoignent certains collègues anthropologues et philosophes qui soutiennent que nous vivons actuellement un changement radical du paradigme, certains même parlent de rupture. L'homme a toujours voulu maîtriser la nature et l'environnement qui l'entoure, or maintenant, sa position change, son désir est de se modifier lui-même. Évidemment, l'évolution, on ne peut pas arrêter. La symbiose humain-technologie est en route, elle est incontournable et elle est aussi, s'allie actuellement à l'utilisation quotidienne qui nous portons, qui nous utilisons concernant certains objets. Enfin, je vous ai parlé de téléphone, mais on pourrait parler aussi de, d'autres objets qui sont à la mode. Donc ça, on ne peut pas échapper. Évidemment, ça a été dit tout à l'heure, la question n'est pas de se mettre dans une position pour ou contre, mais de pouvoir réfléchir à ce qui est en train de se passer justement concernant ce que nous appelons l'intime, donc cette dimension subjective, cette dimension humaine, puisque alliée à une situation humaine qui nous caractérise le fait d'arriver au monde dans la nécessité, dans le besoin vital, pas seulement pour le soin, mais pour le toucher, pour la voix, pour tout ce qui vient constituer ce monde symbolique qui est justement l'évolution de l'être humain. Donc, ces expériences innovantes que nous pouvons appeler, qui s'inscrivent actuellement dans un idéal néo-prométhéen, font surgir des questions immenses et pour cela, elles exigent une dimension interdisciplinaire essentielle et, permettez-moi de me placer comme ça, je soutiens l'idée que la psychanalyse, donc cette pratique qui fonctionne main dans la main avec la clinique, puisque vous savez très bien que quand un patient vient nous voir, c'est parce que les choses ne vont pas bien. Donc, nous avons cette possibilité d'être en contact avec les choses quand ça ne marche pas. Je soutiens l'idée que la psychanalyse donc, est un des acteurs essentiels dans cette discussion. Merci.
Merci. Donc, bien compris. Merci pour avoir pioché cette perspective. Finalement, l'humain n'aime pas la souffrance, la frustration, la détresse, la douleur, et donc il a trouvé dans la technologie une manière de les adoucir, voire de les annuler. Sauf qu'elles sont constitutives de sa structure psychique.
De son être.
De son être. Et donc, que va être l'humain de demain ? Adouci, arrondi, grâce à la technologie, et qui va baigner dans un grand lac de sucré, et qui finalement va produire effectivement une psyché qui pour l'instant est inconnue. D'accord. Alors, on va revenir pour rediscuter ça après toutes ces interventions. On a récupéré du temps. Jean-Jacques, comme vous l'avez compris, s'intéresse à l'intime, au secret. Clairement, nous, la question se pose pour nous de nourrir à chaque instant, à ce moment où nous nous parlons tous ensemble, un espace virtuel dans lequel nous accumulons des données sur nous-mêmes, souvent très intimes, quelquefois choisi, mais souvent pas choisi, c'est-à-dire le simple fait d'une conversation téléphonique avec quelqu'un que vous aimez bien, vous allez lui dire un certain nombre de choses que vous n'avez pas envie de dire aux autres. Et donc, voilà que cet outil se met au service de la médecine. En d'autres termes, vous allez avoir, lorsque vous allez vous rendre chez un médecin, il va déjà être en possession, s'il le souhaite, de tout un tas de données sur vous-même que vous ne souhaitez pas forcément lui communiquer. Et donc, on voit les tendances qui peuvent se dessiner vers une espèce de standardisation de l'humain, une espèce de moyenne, on a fait ça dans le séminaire, une espèce de normopathie, c'est-à-dire, finalement, on va tous se mesurer en termes de distance par rapport à ce que nous sommes et les moyennes que Big Data va nous donner sur notre vie quotidienne, ce que l'on mange, ce que l'on marche, ce que l'on fait, ce que l'on pense, etc. Donc, pour faire ça, cet espace virtuel qui est nourri chaque jour de trillions de données, il va émettre des données qui font partie de votre structure intime. Et donc, la remettre en cause. Alors donc, Jean-Jacques Bonamour a travaillé sur ce sujet et je lui laisse maintenant la parole.